ouvre le monde au féminin. Le monde au féminin. Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue à l'écoute de l'émission hebdomadaire de VO Afrique, le monde au féminin. Nathalie Barge pour vous servir, avec moi dans le studio Christiane Ekambo, journaliste en RDC depuis 26 ans. Merci beaucoup Christiane d'être avec nous.
C'est moi qui vous remercie Nathalie.
Vous avez une licence en gestion et administration des projets à l'Institut facultaire de développement. Vous êtes spécialisée dans le domaine des questions relatives au genre, fondatrice du média en ligne Journal des Nations. Vous avez été attachée de presse et conseillère en communication dans différents cabinets ministériels dont les droits humains et la justice. Vous êtes membre de l'Union internationale de la presse francophone, coordonnatrice de l'Association des journalistes pour la paix. Alors, vous êtes venue aux États-Unis pour la 63e session de la communication de la condition de la femme, qui s'est tenue au siège des Nations Unies à New York du 11 au 22 mars 2019. Avant qu'on rentre dans le vif de notre sujet, qu'est-ce que vous avez retenu?
Alors, cette fois-ci, comme vous l'avez dit, c'était la 63e session qui s'est focalisée sur la thématique du système de protection sociale et puis l'accès aux services publics et aux infrastructures durables par rapport à l'égalité et l'autonomisation des filles et des femmes.
Qu'est-ce que vous avez retenu par rapport à ça, la protection sociale, notamment en Afrique?
C'est que la protection sociale en Afrique, il n'y a pas une couverture totale. La couverture, elle est vraiment minimum. On a noté qu'en Afrique subsaharienne, cette couverture n'est qu'à 11%. C'est-à-dire qu'on a encore du boulot à faire. C'est vraiment très peu. C'est vraiment insignifiant. Chacun doit se prendre en charge. Donc, ce n'est pas facile. Alors que la protection sociale aurait donné une assurance pour une quiétude totale pour tout le monde, quoi.
Alors, l'évolution de la place des femmes dans les instances de décision. On va parler du cas de la RDC. Tout d'abord, bon, vous avez un nouveau président, Félix Tshisekedi. Est-ce que vous espérez de grands changements à ce niveau-là?
On a toujours l'espoir, les femmes continuent à lutter et on espère avoir plus de femmes au niveau du gouvernement. Mais si on voit déjà ce qui existe, c'est-à-dire ce qui a été fait jusque-là, je pense qu'on ne peut pas se leurrer, quoi. Les hommes ne font pas des cadeaux et il faut se battre. On est d'abord économiquement pauvre. Ça crée déjà un écart.
Dans la presse.
Un grand débat a vu le jour au Pakistan après le meurtre de Ouzma, 16 ans, qui travaillait comme domestique pour une famille de Lahore. Son corps portant des marques de mauvais traitement avait été repêché dans une canalisation en janvier. Révélé lors d'un show télévisé, l'affaire s'est soldée par l'inculpation de trois femmes de la famille qui l'employaient. Ouzma a succombé à des coups portés à la tête avec un ustensile de cuisine. Selon l'Organisation internationale du travail, près de 9 millions d'employés domestiques, dont de nombreux enfants, travaillent pour des familles au Pakistan où ils sont exposés à toutes sortes d'abus, y compris sexuels. Et en 2016, un juge et son épouse ont été accusés d'avoir torturé leur servante de 10 ans. Une célèbre présentatrice de télévision de Lahore a également été accusée en 2017 d'avoir séquestré sa servante adolescente. Il est illégal d'employer des domestiques avant l'âge de 15 ans au Pakistan. Et l'an dernier, le Parlement du Pendjab a adopté une loi qui accorde des droits aux domestiques. Mais la plupart des employés de maison ne sont pas déclarés. Voilà donc pour la petite parenthèse, revue de presse. Alors, les femmes au gouvernement en RDC. Bon, c'est difficile d'en parler à l'heure où nous parlons. Nous sommes toujours dans l'attente d'un nouveau gouvernement. Donc, on ne peut que parler du gouvernement passé, le gouvernement Tshibala. Et bon, quand même, moi, j'ai relevé que sur 59 membres au gouvernement, on a 6 femmes. C'est extrêmement léger, hein. C'est 10%. Et c'est même moins que le précédent de Badibanga.
Oui, la lutte pour la parité ou la promotion de la femme ou plutôt sa participation dans la chose publique, c'est une lutte qui est permanente mais qui vacille un peu. On remarque qu'à un moment donné, il y a eu un progrès. Par exemple, tout au début des années 75, il y a eu ce progrès puisqu'on n'y était pas. Les femmes sont entrées avec l'émancipation de la femme.
Est-ce qu'on n'a pas relâché en se disant un petit peu trop, c'est quasiment gagné alors que c'est pas du tout le cas?
Ça c'est vrai aussi, hein. Parce que les femmes, à un moment donné, les années 90, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait beaucoup de femmes quand même qui se sont impliquées dans les affaires politiques. Mais à un moment donné, elles ont remarqué aussi qu'elles étaient plus chosifiées. Et je crois que c'est ce qui a créé ces replis dans la société civile. Elles se sont cantonnées dans la société civile et ça a donné, ça a créé un retard. Il y a eu des frustrations au niveau de la politique où il fallait faire beaucoup de gymnastique pour avoir un poste. Et comme je dis, elles se sont rétractées. Elles se sont cantonnées plus dans la société civile. Elles sont très actives là-bas et aussi dans l'économie informelle. Et là, ça a donné du retard. Mais maintenant, les quelques femmes qui sont dans la politique, elles n'ont pas des partis politiques. Puisque chez nous, c'est plus les présidents des partis politiques qui émergent. Ce sont ceux-là qui sont influents. Et il faut dire aussi qu'il y a beaucoup d'hommes dans les partis politiques, plus que des femmes. Et les femmes, les rôles qu'elles jouent dans les partis politiques, ce sont plus des rôles secondaires.
Parole de femme.
Safi Mukundwa avait 7 ans lorsqu'elle a survécu au génocide au Rwanda. En 1994, sa mère et son frère ont été tués tandis qu'elle a survécu après avoir reçu des coups de machette. Âgée aujourd'hui de 32 ans, elle se consacre au soutien des filles mères avec son association Safi Life Organisation qui forme chaque année 50 jeunes à la couture. Idriss Fall a rencontré la survivante Andera dans la banlieue de Kigali à l'occasion de la 25e commémoration du génocide rwandais. On l'écoute.
Pendant le génocide, j'avais 7 ans. Mais lorsque j'ai perdu toute la famille, lorsque j'étais à l'hôpital de Kibuye, j'ai promis au Seigneur que si je survivais, j'aiderais beaucoup de personnes que je peux.
Et comment est-ce que vous avez mis en place ça, les bâtiments, les machines?
Lorsque j'étais à l'école secondaire, j'ai donné le témoignage à Kigali Memorial Center. Puis j'ai eu la chance de rencontrer avec beaucoup de personnes, différentes personnes. Il y a une Américaine qui s'appelle Devon Ogden. Il m'a demandé qu'est-ce qu'elle peut m'aider moi-même. J'étais en 5e secondaire. Et je lui ai demandé de m'aider, d'aider les autres. Comme j'avais le fardeau d'aider les autres. Donc, il m'a aidé d'aider les autres. C'est comme ça que nous avons commencé Safe Life.
À 7 ans, est-ce que vous vous rappelez comment est-ce que vous avez perdu vos parents pendant le génocide?
Oui. À 7 ans, on est assez grand pour connaître toutes choses.
Ça s'est passé comment?
Nous sommes devenus de Kibuye. Nous étions allés à Stade Gatwaro. Les nains sont venus, ont tué beaucoup de personnes. J'ai perdu la famille, mais lorsque nous sortons à Stade de Gatwaro, j'étais avec ma mère, avec mon grand frère, que j'ai perdu après deux jours. Les nains qui ont tué ma famille, ce sont eux qui m'ont aussi coupé avec les machettes. Donc j'ai survécu et connais que j'étais aussi morte.
Et maintenant, vous êtes mariée, vous allez bientôt avoir un bébé?
Oui, je suis mariée, j'ai aussi des garçons. Bientôt, j'aurai à avoir un autre enfant.
Vous écoutez Le Monde au féminin avec comme invité Christiane Ekambo, journaliste congolaise. Les femmes au Parlement en RDC, en revanche, il y a eu beaucoup de progrès. On a 50 femmes sur un total de 485 élus à l'Assemblée nationale aux législatives du 30 décembre 2018 pour les 26 provinces de la RDC. Et le président de la CENI, Corneille Nangaa, avait indiqué avait dit la représentation des femmes est nettement mieux qu'en 2006 et 2011. Il avait même déclaré que c'était une première dans l'histoire du pays. Ce qui est intéressant, le Parlement, c'est important, c'est là où on fait bouger les choses aussi, hein, les lois, etc. Surtout en ce qui concerne les femmes, on a divers problèmes, héritage, mariage, etc. Donc, comment vous expliquez cette montée hein, de femmes élues au niveau du Parlement? Est-ce que les médias y seraient pour quelque chose ou non?
Oui, les médias ont beaucoup travaillé aussi. Il y a à côté des médias, il y a eu aussi toutes les organisations, l'ONU Femmes, il y a le PNUD aussi. On a aussi des structures telles que le cadre permanent pour la femme. On a fait beaucoup de séances de formation pour inciter la femme à participer.
C'est parce qu'il y a eu déjà plus de participation féminine,
voilà.
Forcément. Hein.
Il y a eu plus de participation et dans ce lot, bien sûr, il y en a qui ont perdu. Mais c'est ça qui a fait. Aujourd'hui, on fait 10% et c'est ce qui est encore avantageux, qui nous réjouit plus. C'est qu'au Sénat, aujourd'hui, nous avons 19 femmes.
Oui.
Il y en avait 5.
Oui, 5.
Et
oui.
Ce qui fait à peu près qu'on a multiplié le nombre par 4 au Sénat sur 100.
Des efforts
donc,
qui ont payé.
Oui, il y a... Donc les femmes ont pris conscience qu'il fallait y aller et dès qu'elles s'y sont mises, on a voté pour elles.
Si jeunesse pouvait.
Plus d'un an sans réseaux sociaux au Tchad. En mars dernier, la cour d'appel de N'Djamena a confirmé le rejet de la plainte de la société civile qui dénonce ces restrictions, justifiant sa décision pour des raisons sécuritaires. J'ai joint la directrice d'Internet sans frontières, Julie Owono, relevant que cette mesure entrave les opportunités pour la jeunesse tchadienne.
Tous les jours, nous recevons des témoignages de jeunes personnes, notamment, qui avaient trouvé, à travers les réseaux sociaux, une manière de vendre leur talent, de faire connaître leur talent. On pense notamment à des blogueurs, ces jeunes gens qui écrivent et qui se font connaître par des rédactions internationales, qui ensuite peuvent rêver à avoir des carrières beaucoup plus importantes de journalistes. On pense également à des entrepreneurs qui créent des outils qui peuvent faciliter la vie de beaucoup de personnes au Tchad, qui malheureusement se retrouvent du jour au lendemain avec la difficulté de promouvoir ces produits-là, promouvoir ces services-là, parce qu'ils ne sont plus capables, comme avant, de communiquer directement avec leurs clients. Ou en tout cas pour pouvoir communiquer directement avec leurs clients, il faut qu'ils dépensent encore plus d'argent. C'est ce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, pour pouvoir continuer à accéder aux réseaux sociaux, donc à contourner la censure qui est actuellement en cours, eh bien beaucoup de Tchadiens sont obligés d'utiliser ce qu'on appelle des VPN. Ce sont des outils tiers, techniquement, qui vous attribuent une adresse IP qui n'est pas la vôtre. Pour utiliser ces outils-là, c'est un coût supplémentaire.
Alors à ce propos, vous aviez justement lancé une campagne pour pouvoir utiliser les VPN. Que va-t-il se passer pour tous ces gens qui ne pourront plus forcément passer par là, à part les gens relativement fortunés?
La campagne que nous avons lancée a pour but de soutenir le travail important des journalistes, des défenseurs des droits de l'homme, des activistes, des blogueurs, dont la voix est importante pour pouvoir continuer à nous informer, pour pouvoir porter la voix du Tchad hors des frontières tchadiennes. Donc ça, pour nous, c'est très important. Maintenant, pour ce qui est du reste de la population, malheureusement, on aimerait faire plus, mais avec les moyens que nous avons, ce n'est pas possible. La seule chose que nous pouvons faire, c'est d'essayer de rappeler à la raison les autorités tchadiennes en leur disant que ce n'est absolument pas productif ce qui est en train de se passer. Au contraire, le pays perd beaucoup plus d'argent et ne règle absolument pas les questions que cette censure est censée vouloir régler. Comme je disais, elle ferme des opportunités à la jeunesse. On n'a pas d'exemple similaire dans le monde où pendant un an, des gens ne peuvent pas se connecter normalement à un site aussi simple et basique que Facebook ou que Twitter.
Merci beaucoup Julie Owono, directrice exécutive de Internet sans frontières.
Et oui, et si la jeunesse pouvait?
Vous écoutez Le Monde au féminin avec Nathalie Barge et comme invité Christiane Ekambo, journaliste congolaise. Selon une ordonnance du 6 mars, le président donc de la RDC, Félix Tshisekedi, a nommé plus de 100 conseillers, dont 80 au cabinet du président. Et ça avait généré des critiques, on parlait de sous-représentation des femmes. La liste du cabinet avait été lue à la télévision. La Lucha avait dénoncé sur Twitter un cabinet, je cite, « scandaleux ». scandaleusement pléthorique et une dizaine de femmes seulement, malgré les engagements répétés de M. Tshisekedi de promouvoir la parité. Donc ça, c'est le commentaire de la Lucha sur les réseaux sociaux. Ça nous fait un 17%. Vous allez me dire que c'est pas mal.
Non, c'est pas ce que je veux dire. Moi, je veux dire que c'est la réalité. Ça se voit, c'est clair que nous n'atteignons pas les 30% que nous cherchons. On n'a pas encore atteint les 30% en RDC. Vous l'aviez dit, au niveau du Parlement, c'est le 10%. Et aujourd'hui, il va faire la même chose. Au début, je disais même que l'espoir est minime.
Et comment vous expliquez qu'un pays comme le Rwanda soit parvenu à avoir plus de 60% des femmes au Parlement, la totale parité au niveau du gouvernement, enfin c'est un modèle en la matière, même au niveau mondial. Comment vous expliquez qu'un pays comme le Rwanda y parvient alors que la majeure partie des autres pays du monde n'y parviennent pas?
Le Rwanda a misé sur ça. Il a même damé les pions à la Suède. C'est vrai, avec 64% des femmes au Parlement. Oui, mais... Il y a un système de quotas, c'est-à-dire que nous tous, nous devions jeter un coup d'œil, voir un peu l'exemple. Comment est-ce qu'ils ont fait? Ils ont misé sur les femmes et le système de quotas a favorisé les femmes aussi qui sont venues en grand nombre.
Et on peut dire en plus de ça que le Rwanda, c'est un pays qui réussit plutôt bien au niveau économique, social, politique à l'heure actuelle.
Oui, ça devient un exemple au niveau du monde. Mmh. Oui, ça devient un exemple, une référence au niveau du monde. Mais au niveau de la RDC, il y a encore beaucoup à faire. On a eu une seule candidate à la présidentielle, la seule dame. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a remarqué que cette femme est partie en solo. Au moment où il y a eu des organisations qui devaient l'accompagner, elle n'est pas venue vers ces associations-là. Les femmes ne l'ont pas vue.
Il y a plusieurs femmes politiques congolaises qui m'ont dit se plaindre du fait que dans les médias, on leur demande de payer pour des interviews. C'est vrai ça? Ça arrive?
Pour des interviews, ce n'est pas qu'on paye, mais la femme, elle est économiquement pauvre. C'est-à-dire que ces femmes-là ont peur des médias. Ce n'est pas parce qu'il faut payer, mais elles ont peur des médias. Elles se sont mis dans la tête qu'on demandait l'argent. Mais d'abord, avant tout, il faut y venir. Mmh. Il faut venir, mais quand on les appelle...
C'est passage obligé.
Oui.
Entre parenthèses.
Au Congo-Brazzaville, le marché local subit la concurrence du haricot venant des pays voisins. Pour relancer la production dans le pays, les agriculteurs forment des coopératives, ce qui profite à de nombreuses femmes et jeunes qui se lancent dans cette activité, et également la production du manioc. Voici un reportage d'Arsène Séverin qui a rencontré des producteurs impliqués dans cette initiative dans le sud-ouest du pays.
Une dizaine de coopératives à Ludima dans la Bouenza s'est lancée dans la production du haricot. Ici, à l'Itadi, les plantations de haricots remontent des temps anciens, mais jamais les producteurs n'ont levé de quantités aussi importantes de ce produit. Avec l'aide du Programme alimentaire mondial, les résultats sont très encourageants. Priska Mawungu a récolté 550 kg de haricots en 2018.
Ah, c'est difficile. J'ai beaucoup travaillé. Mais auparavant, je ne travaillais pas un hectare. Ça, c'est là où il y a le changement. Là, par exemple, il y a 2 hectares. Bon, je vais essayer un peu de regarder. Si je n'arrive pas, je vais mettre aussi le manioc. Après, je mets un peu d'haricots.
Quelques 200 personnes sont impliquées dans cette activité. Elles apprennent de nouvelles techniques pour maximiser leur récolte. Le responsable du secteur agricole, PAM.
Quand le projet est arrivé, il était question que chaque producteur puisse mettre en valeur un demi-hectare par cycle, donc un hectare l'année, donc les 2 cycles. Mais nous avons eu des producteurs qui sont arrivés à faire 2 à 3 hectares en 2 cycles. Donc c'est pour dire qu'il y a eu un avancée considérable. Et vous voyez même sur ce terrain où on est venu, c'est la culture du haricot qui sera mise en place associée au manioc pour avancer avec les techniques qu'ils ont reçues.
Au campement d'Itadi, les producteurs demandent des moyens pour produire plus et combler le marché local.
Désherber et planter, vraiment, ça demande beaucoup. Non, à la fin, si le produit vraiment sort bien, tu as quand même l'avantage.
Dans les bassins de production de Fouati, de Bokosongo et de Boansa, la production de haricots pourrait augmenter si les producteurs gardent la main à l'ouvrage. De retour de Itadi à Ludima, Arsène Séverin, VOA Afrique.
Étienne Ekambo, pour terminer, avant de se quitter, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu des femmes qui sont la tête de grandes entreprises. Il y a un organisme intéressant à RDC, c'est la Commission nationale des femmes entrepreneurs de la Fédération des entrepreneurs du Congo. C'est un réseau qui regroupe plus de 300 femmes. Alors, elles travaillent sur l'encadrement, renforcer les compétences entrepreneuriales des femmes, promotion des activités des femmes, faire connaître les entreprises des femmes. On connaît le même problème dans le business. Se faire connaître, c'est toujours plus difficile quand on est une femme. Et donc, mettre en avant les problèmes qui handicapent l'exercice et l'expansion des secteurs d'activité de l'entrepreneuriat féminin. Alors, on a des grandes dames qui sont forcément présidentes, vice-présidentes, etc. Eliane Moukeni. Oui.
Eliane Moukeni, c'est la présidente de CNFE, donc la Commission nationale des femmes entrepreneurs du Congo. Elle est très engagée, elle est très active dans cette association. La Commission nationale des femmes entrepreneurs, comme vous l'avez dit ici, travaille beaucoup en ce qui concerne le renforcement des capacités des femmes. Des femmes qui ont, par exemple, des micro-entreprises, elles ont fait la foire de la femme entrepreneur à Kinshasa par rapport au mois de la femme. C'était la grande activité qu'elles avaient. Elles ont reçu la secrétaire générale de la francophonie à Kinshasa, à leur bâtiment qu'ils ont reçu à leur bureau. Ils ont rendu hommage à Louise, la secrétaire générale de la francophonie. Donc, on voit que ces femmes-là, elles travaillent beaucoup pour la promotion de la femme, mais pas seulement. Au début, on croyait que les femmes entrepreneurs du Congo regroupaient juste les femmes d'affaires, les grandes dames qui avaient beaucoup d'argent, mais elles se sont mises à travailler aussi pour celles qui sont au niveau informel, pour qu'elles se mettent vraiment dans les affaires, mais avec des documents légaux, parce que la plupart qui étaient au niveau informel, elles n'ont pas des papiers, elles ne savent pas qu'il faut payer les taxes, elles ne savent pas comment gérer même leur entreprise. Et c'est le travail qu'elles abattent, un travail formidable, et parfois même avec les grandes banques. Elles coopèrent avec la banque, l'Eurobank, qui a une politique pour les femmes first lady, comme on appelle ça. Donc les femmes peuvent avoir du crédit, et la Commission nationale des femmes entrepreneurs les encadre pour que quand on a un crédit, qu'on sache quand même comment rembourser ce crédit-là. Rembourser les dettes.
On peut les remercier, ces dames. Eliane Moukeni, Espérance Bello, Joël Niota, Angélique Buisine, Solange Zodouloua, Joël Schetter, entre autres. Des femmes
que je connais très bien. Eliane Moukeni, son mari, c'est l'actuel recteur de l'IFACIC, donc l'Institut facultaire de sciences de la communication. C'est une femme battante. Elle-même, elle a une entreprise d'audit.
Donc, ce qui est intéressant, ce qu'on retient là, effectivement, c'est qu'elles emmènent derrière elles toutes ces femmes qui ont des toutes petites activités.
Voilà.
Et là, elles font peut-être le travail du gouvernement.
Oui, au niveau économique, ça c'est vrai. Elles font vraiment tout pour la promotion de la femme, l'autonomisation de la femme. Et il faut que les femmes aussi soient informées, qu'elles sachent à partir de cette sensibilisation-là.
Un grand merci, Christiane Ekambo. C'était un plaisir de vous avoir encore dans Le Monde au Féminin. À très bientôt. Au revoir.
Merci Nathalie, merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir pour moi.
Au revoir. Oui. Arrête.